Bonjour à tous, je m'appelle David, bienvenue à Oasis. J'imagine que vous êtes comme moi, vous êtes submergé par une quantité impressionnante d'informations et d'actualités plus ou moins agréables qui viennent des proches qui vous parlent, de la télé, des journaux ou bien d'Internet, et il est souvent difficile d'y échapper. Et en tant que chrétien, c'est un vrai combat que de ne pas se laisser agresser par cette masse de données, de nouvelles qui sont souvent anciennes et des fake news, comme on les appelle. Cette agression révèle que le monde défie tous les jours ceux qui croient en Dieu. Le Covid par-ci, les restrictions par-là, un accident ici, une guerre là-bas. Un tel dira que Dieu n'existe pas, mais la même personne dira « Oh mon Dieu, oh my God » en introduction de toutes ces phrases. Le monde actuel met devant nos yeux quatre défis. Quatre challenges comme quatre réalités déstabilisantes, parce que tout est fait pour qu'on soit perdu, pour qu'on soit seul, pour qu'on soit impuissant et pour qu'on soit sans but. Le monde fait qu'on soit perdu, il veut qu'on soit perdu, il nous offre trop de choix et trop de choix tue le choix. Le monde fait en sorte qu'on soit seul, évidemment j'ai ma liberté, je fais ce que je veux, la liberté individuelle et l'individualisme est exacerbé contre le collectif notamment. Le monde fait en sorte qu'on a l'impression qu'on est impuissant devant les choses, qu'on ne peut rien faire, qu'on ne peut pas changer le monde et qu'on est dépassé. Et le monde fait aussi qu'on vit une vie sans but. Même si on trouve une direction, un chemin, quelqu'un va dire « Ouais, mais c'est pour quoi faire ?» Tu vois bien que c'est une impasse. Et puis d'ailleurs, on n'en sait rien, on ne sait pas où ça va. Et puis de toute façon, c'est trop compliqué les choses. Mais la Bible dit quatre mots d'espérance, quatre réponses aux quatre défis de notre temps. La Bible dit que Jésus est le chemin, que Jésus est la vérité, que Jésus est la vie. Et que personne ne vient à Dieu le Père que par Jésus-Christ. Donc prendre la route avec Jésus, vivre sa vie avec Jésus, répond aux quatre défis de ce temps. Et à l'heure actuelle, moi aussi je suis en train de vivre ces défis, et je ne suis pas meilleur que les autres, mais je peux vous dire que sans Jésus dans ma vie, eh bien, je ne serai pas là devant vous. Sans Jésus dans ma vie, je ne serai pas là devant vous. Et vous voulez savoir pourquoi? Parce qu'avec lui, je ne suis pas perdu. Parce qu'avec Jésus, il est le chemin qui est devenu mon chemin pour avancer dans ma vie. Je ne suis pas seul parce que Jésus m'a donné une véritable famille. Et l'Église, comme un corps qui vit, elle est forte, elle m'encourage, elle prend soin de moi, elle prend soin de chacun d'entre nous. Avec Dieu, je ne suis pas impuissant dans la résolution de mes problèmes parce que Jésus fait intervenir, mais chaque jour, sa grâce infatigable, la grâce infatigable de Dieu, mais aussi la profondeur, mais vertigineuse quand j'y pense, de l'Esprit-Saint dans ma vie. Sur toutes mes situations. Et enfin, je ne vis pas ma vie sans but, parce que ma vie en Christ, elle a une intention, elle a une destination. Ma vie en Christ, elle est abondante de jours merveilleux, comme de jours pluvieux, de moments de tendresse, mais aussi d'épisodes de stress. Et au bout de ma route, contrairement aux gens du monde, eh ben, au bout de ma route, j'ai Jésus qui m'attend. Et quand je descends sur les quais du train de ma vie, eh ben, c'est Jésus qui m'attend, et c'est lui qui m'accueille. Aujourd'hui, mes amis, ma vie est abondante en Christ. Mais ça implique quoi d'avoir une vie abondante en Christ? Vous avez déjà vu en ville les travaux ou les immeubles en construction partout? Eh bien, ma vie en Christ, c'est comme un chantier. Pour le terminer, il faut être engagé et il faut être organisé. Et ce matin, je voudrais vous présenter trois façons de nous organiser pour vivre une vie abondante en Christ. Quand j'ai une vie en abondance en Christ, je fais partie d'un même corps. Je distingue ce que je n'ai pas besoin et je me focalise sur ce qui est important. Donc pour saisir le défi de cette vie abondante en Christ, c'est ce que je vais vous partager ce matin, eh bien il faut constater qu'il est possible de le relever avec le Seigneur. Et c'est d'étudier ensemble, par exemple, comment les membres d'une des premières églises de Rome se sont organisés. On va voir comment ils ont fait ça. Et ça se trouve dans la Bible, il s'agit de la lettre écrite par l'apôtre Paul aux croyants de l'église de Rome, aux alentours des années 50 après Jésus-Christ. C'est une église que l'apôtre Paul n'avait pas encore rendu visite, mais il le fera bien plus tard. Et les gens étaient connus, les gens de Rome étaient connus, de l'église de Rome étaient connus de tous pour leur engagement fidèle aux enseignements de Dieu. Il s'agit du dernier paragraphe de sa lettre, et il formule ses salutations dans Romains chapitre 16, verset 1 jusqu'au verset 16. En Romains chapitre 16, verset 1 jusqu'au verset 16. Je vous recommande notre sœur Phoebe, qui est diaconesse de l'église de Sancré. A priori, c'est elle qui a fait le voyage de la région de Corinthe où était Paul pour transmettre aux Romains ce courrier. Donc, je vous recommande notre sœur Phoebe, accueillez-la dans le Seigneur d'une manière digne des saints et aidez-la pour toute affaire où elle pourrait avoir besoin de vous, car elle en a aidé beaucoup, moi y compris. Salut Prisca et Aquilas, mes collaborateurs en Jésus-Christ. Ils ont risqué leur tête pour me sauver la vie. Je ne suis pas le seul à leur être reconnaissant. C'est aussi le cas de toutes les églises des non-juifs. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Epainette, mon bien-aimé, qui a été le premier fruit pour Christ en Asie. Saluez Marie, qui a beaucoup travaillé pour vous. Saluez Andronicus et Ginia, mes compatriotes et mes compagnons de détention. Ils sont très estimés parmi les apôtres et ils se sont même convertis à Christ avant moi. Et au verset 8, saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Verset 9, saluez Urbain, notre collaborateur en Christ, et mon bien-aimé Stachys. Saluez Apelles, qui a fait ses preuves en Christ. Saluez ceux de l'entourage d'Aristobule. Saluez Hérodion, mon compatriote. Saluez ceux de l'entourage de Narcisse, qui appartiennent au Seigneur. Saluez Tiphaine et Tryphose, elles qui travaillent pour le Seigneur. Saluez la bien-aimée Perside, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Saluez Rufus, celui qui a été choisi dans le Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. Saluez Ancycrite, Plégone, Hermès, Patrobas, Hermas et les frères et sœurs qui sont en eux. Qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Néré, sa sœur, ainsi qu'Olympe et tous les saints qui sont avec eux. Saluez-les les uns les autres par un saint baiser et toutes les églises de Christ vous saluent. Comme moi, je suppose que vous avez découvert des nouveaux noms. Donc une première façon de s'organiser pour vivre une vie abondante en Christ, c'est de réaliser que je fais partie d'un même corps. Si j'ai énuméré tous ces noms, c'est pour vous dire, mais il y avait du monde dans l'église de Dieu. Et cette liste d'une trentaine de personnes, sans compter les groupes, révèle une centralité décrite dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16. Puisqu'il y a un seul pain, c'est-à-dire le corps du Christ, nous qui sommes nombreux, nous formons un seul corps, en parlant de tous ceux qui croient réellement à l'œuvre de Jésus-Christ. Donc la vie du croyant est centrée sur la vie du Christ, et l'église fait corps autour du Christ. Et sans l'amour du Christ, cette église ne serait rien et elle mourrait. Cette partie du chapitre 16 de l'épître Paul aux Romains est effectivement une liste longue, mais elle en dit long sur la bonne forme de l'église de Rome. On apprend qu'elle est organisée, on apprend qu'elle a des lieux pour se rassembler, on apprend que l'église de Rome n'avait pas de bâtiment église comme on a nous aujourd'hui, mais elle se retrouvait dans les familles, dans les maisons. Elle avait au moins, on peut interpréter qu'il y avait deux groupes de maisons. Au verset 14, il y avait Ancycrite, Plégone, Hermès, Patrobas, Hermas et leurs frères et sœurs, mais aussi au verset 15, Philologue et Julie, Néré et sa sœur, ainsi qu'Olympe et les autres. Cette église était composée de personnes de divers milieux socio-économiques, des personnes sans renommée, comme par exemple des esclaves, on suppose d'Aplias et Philologue, ce sont des noms assez communs chez les esclaves romains. Mais il y avait aussi des citoyens romains, juifs, riches, mais aussi influents, comme le couple Prisca et Aquilas, qui ont fondé le magasin Decathlon. Non, c'est pas vrai, c'est une blague. Leur entreprise, en fait, a fabriqué des tentes. Alors, pas des tentes autodépliantes, mais ils étaient aussi propriétaires de plusieurs maisons. Et on peut citer l'entourage de Narcisse, qui faisait probablement partie des chrétiens qui avaient des postes de haut rang dans la cour de l'empereur. Mais il y avait également des gens célibataires, des femmes seules, des couples, des mères de famille. Cette église avait aussi, elle est belle parce qu'elle avait plusieurs visages qui montrent une diversité de caractères. Alors si on se fie à l'origine du nom des personnes pour imaginer au moins un trait de caractère, on dirait par exemple que Stachys, ben il aurait pu ressembler à un épi de blé parce que c'est le signification de son nom. Je ne sais pas ce que ça veut dire, il était peut-être blond. Voilà. Rufus qui signifie rouge, il devait peut-être avoir un caractère fort ou bien une physionomie singulière. Et d'autres comme Epainette, ça signifie digne de louange. Peut-être qu'il inspirait un caractère bon et agréable. Cette église avait aussi des membres qui ont de l'expérience dans la foi. Il y avait par exemple des personnes anciennes dans la foi, très utiles pour encourager les plus faibles. Il y avait Andronicus et Junia qui s'étaient convertis avant Paul. Et Epainette, au verset 5, lui, il est décrit comme le premier fruit pour Christ en Asie, c'est-à-dire comme le premier converti par Paul dans cette région. Il vient de loin ce type, tant par son histoire que par les épreuves qu'il a dû endurer. C'était aussi une église riche, alors riche dans toutes les dimensions, qui se contente de tout, mais elle reste quand même vigilante. Cette liste, elle est incomplète, certes. Elle reflète la richesse de l'Église, comme ici à Oasis. À la différence que nous, on a la chance d'avoir un bâtiment principal pour nous réunir. C'est une grâce, on devrait s'en rendre compte quand même. Mais qu'importe, cette église avait de quoi subvenir aux besoins de chacun, comme une famille. Il n'y avait pas de planning comme aujourd'hui. Mais Paul, il les avertit au verset 17, « Méfiez-vous de ceux qui provoquent les divisions et font trébucher les autres en s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. » L'église de Rome est connue pour son obéissance et elle remplit de joie Paul quand on lit cette lettre, parce que Paul sait qu'ils sont dans la joie du Seigneur. Ils sont dans la joie du Seigneur dans tous les domaines de leur vie. Et cette église a réellement un cœur qui bat. Et ça, c'est beau. C'est la foi en Christ qui est sa source. C'est la foi en Christ qui est sa richesse, mais c'est aussi la foi en Christ qui est sa vigilance. Car même face aux faux prophètes, ces gens n'avaient rien à craindre, car ils savaient que là où deux ou trois sont réunis en son nom, donc c'est-à-dire dans le nom de Jésus-Christ, avec Jésus, Jésus est au milieu d'eux. Et on comprend mieux maintenant ce qu'ils faisaient ensemble. Ils louaient le Seigneur, comme diraient les auteurs du livre des Hébreux, chapitre 2, verset 12. « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Chaque occasion de se rencontrer était propice à des louanges nouvelles, à des paroles nouvelles d'encouragement et d'enseignement. C'est ce qu'on essaie de faire ici à Oasis. Ces chrétiens continuent ensemble à expérimenter la puissance réelle et spirituelle de la présence de Dieu à travers leur communion fraternelle, et c'est ce qu'on essaie aussi de vivre ici à l'église à Oasis, à travers l'enseignement de la parole, la fraction du pain, la prière, la louange. De quoi ont-ils besoin encore ? Parce qu'en Christ, ils ont tout. Ils ont tout. Ils sont complets, ils sont pleins, ils sont remplis de grâce. Ils sont remplis de Dieu grâce à l'alliance avec Dieu. Donc on comprend mieux pourquoi ils prennent soin de l'Église comme leur propre corps. Jamais personne n'a détesté son propre corps, c'est Éphésiens 5, 29, 30. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Et en tant que membre de son corps, en tant qu'homme et femme appartenant à Christ, nous avons tout en abondance. Pas besoin de picorer dans la philosophie de gauche ou dans les lois de droite. En Christ, nous avons tout pleinement, c'est-à-dire on a tout en abondance, parce que nous faisons partie de ce corps qui déborde de vie. Donc, la première façon de s'organiser pour vivre une vie abondante en Christ, c'est de se rendre compte qu'on est dans un corps, le corps du Christ, qui fait déborder sa vie. Et deuxième façon de s'organiser pour vivre une vie abondante en Christ, c'est de distinguer ce que je n'ai pas besoin pour vivre ma vie. Qu'il y a des choses dont je peux me passer. En Christ, je distingue ce que je n'ai pas besoin. Si je continue à analyser la vie de l'Église de Rome, je m'aperçois qu'ils avaient compris à travers les paroles de Paul ce que Christ a dit dans Luc, chapitre 12, verset 13. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Ils avaient saisi que leur vie à travers le Christ allait changer leur propre vie. Le plus important pour eux, ce n'était pas de gagner en abondance toutes les richesses matérielles, mais de gagner une abondance qui provient du cœur. Qu'on soit riche ou pauvre, dans leur cœur, il faut faire le tri entre un mauvais et un bon trésor. Et Jésus dit dans Luc, chapitre 6, verset 45, « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, mais le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Et dans les psaumes, il est dit que ma bouche va faire entendre des paroles sages et mon cœur a des pensées pleines de sens. Un cœur rempli de la vie de Dieu, il est pleinement rempli. La vie a ainsi un sens, la vie a un but, ma vie a une raison d'être. Et c'est celui d'exister pour servir celui qui m'a créé. La foi est au cœur de leur trésor, parce que Dieu est le trésor de son cœur. Pour ces chrétiens de Rome, la vie est au cœur de leur trésor, parce que Dieu est le trésor de leur cœur. Donc la vie d'un homme ne doit pas dépendre de ses biens, mais elle doit dépendre de ce que Dieu lui donne. Le chrétien, il a une vie en abondance parce qu'elle provient de Dieu qui la donne. Jésus, il dit, « Moi, je suis venu afin que les brebis, c'est-à-dire les croyants, elles aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. » Je ne sais pas si vous savez l'étymologie du mot « abondance », mais le mot « abondance » vient de l'eau, des ricochets, des ondes à la surface de l'eau qui afflue et qui s'accumulent petit à petit par vaguelettes qui se produisent en grand nombre. D'où l'idée d'avoir quelque chose en quantité. Et ces ondes, si on ne les arrête pas, elles continuent à se propager. Donc la vie en abondance donnée par Dieu, en d'autres termes, c'est la vie éternelle. Et Jésus dit dans Jean chapitre 5, 24, « en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle, il a cette vie abondante. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » On passe du vide, de la mort, à quelque chose de rempli, la vie. Donc le chrétien doit savoir repérer ce qu'il a vraiment besoin dans sa vie personnelle. Il a besoin de repérer tout ça pour rester connecté à Dieu et aux autres. Dans ce monde qui est dominé par Amazon, on te fait miroiter tout ce que tu peux posséder en achetant tout et aussi n'importe quoi, comme si tu en avais vraiment besoin. Alors évidemment, je ne peux pas t'empêcher d'acheter le dernier téléphone portable à 1000 euros, comme des prix de malade quand même pour des téléphones. Pose-toi plutôt la question du service rendu au regard du prix dépensé. Par exemple, très bien, tu achètes un truc comme ça. Est-ce que tu y passes tout ton temps pour appeler les personnes de ton entourage qui auraient besoin d'avoir ton soutien? Même un coup de téléphone ou un email pour donner quelque chose, pour donner une bonne humeur, un mot gentil, une attention à quelqu'un qui en a besoin. Et cet argent, certainement, aurait pu servir à autre chose. Parfois, il n'est pas nécessaire de perdre ton temps avec des pensées de rancœur et qui te font tourner en rond jusqu'à la dépression. En présentant tes pensées à Christ, il va te montrer que tu n'as pas besoin de ces sentiments-là. Tu n'es pas fait pour vivre comme ça. Parfois, les gens, ils sont désagréables. Tu n'as pas besoin de subir ça. Tu n'as pas besoin aussi d'être une personne comme ça. L'abbé Pierre dira « Un sourire coûte moins cher que l'électricité, mais un sourire donne autant de lumière. » Je crois que tu connais plein de situations et d'exemples auxquels tu es confronté, mais quand ta vie est en Christ, le Christ déverse ses pensées, ses meilleures pensées en toi. Dans la prière, demande à Dieu sa sagesse. Demande à Dieu la sagesse pour discerner d'abord ce que tu n'as pas besoin et toutes ces choses qui polluent tes prises de décision. Donc quand on a une vie en abondance avec Christ, on est dans un même corps qui fait déborder sa vie, le corps du Christ. Quand on a une vie en abondance avec le Seigneur, on apprend à distinguer ce qu'on n'a pas besoin dans notre vie. Et troisième façon de s'organiser pour vivre une vie en abondance en Christ, c'est de distinguer ce qui est important. Il y a des choses plus importantes que les richesses du monde. Oui, Dieu ne les bénit pas totalement, car elles peuvent servir d'une manière ou d'une autre au mystère de l'œuvre de l'Évangile. Mais il bannit notre attachement, notre amour viscéral pour les richesses matérielles. Ça ne lui plaît pas notre cupidité ou notre orgueil pour la richesse périssable. La cible n'est pas d'avoir un certain degré de confort matériel, mais le problème est qu'on aime autre chose que Dieu et soi-même. Le problème, c'est quand on met au cœur de son trésor, c'est ce qu'on met au cœur de son trésor, au cœur de notre cœur, l'amour pour autre chose que l'amour pour Dieu et pour les autres. Par exemple, on met l'amour de l'argent au milieu de notre vie, le désir de vouloir posséder ce qu'on n'a pas. Et cet enseignement de Jésus explique que la vie en Christ, elle crée en fait une situation inédite, une situation nouvelle, un comportement nouveau face aux gens du monde qui nous entourent. C'est un nouveau point de vue, c'est celui de la volonté de Dieu. Est-ce que tu as envie de t'y soumettre? On doit avoir une vie sous son autorité, par sa parole. Il s'agit de vivre la vie présentée par le Christ, une vie sous son autorité, une vie bonne en abondance. Alors ce n'est pas crouler sous les liasses de billets, peut-être que vous l'êtes aujourd'hui, ni inondé sous les applaudissements d'un jury qui te félicite de ta prestation. Être en Christ, c'est bien plus qu'une vie réussie. La vie en Christ, c'est de vivre pleinement ce qui a de la valeur pour toi et pour Dieu. Et donc, ne t'inquiète pas sur ce qui n'a pas de valeur. Ne t'inquiète pas sur ce qui n'a pas de valeur. Les valeurs du monde sont séduisantes, mais elles sont pernicieuses et mouillées du péché qui te font perdre le nord. Elles te font perdre aussi la clarté sur la volonté de Dieu. Tout est fait pour que tu n'ouvres pas la parole de Dieu. C'est Dieu, n'est-ce pas, des fois, d'ouvrir la parole de Dieu et d'entendre ce que Dieu a envie de nous dire. Au contraire, sois sérieux, sois sérieuse. Ouvre la parole de Dieu régulièrement, tous les jours, pour t'imprégner des valeurs de la grâce de Dieu et de l'Évangile, comme ces chrétiens de Rome. Et sois patient, prends le temps de prier Dieu tous les jours, car Dieu te répond. Ne manque pas ce moment, car tout est fait pour te distraire loin de la prière. C'est comme quand tu vas à Ikea. Tu vas à Ikea, d'abord tu vas pour acheter une fourchette, qui manque dans le tiroir de ta cuisine. Et au final, tu repars chez toi en ayant acheté une nouvelle cuisine. C'était pas prévu. et pas vraiment utile quand on sait que tu ne sais pas vraiment cuisiner. Le monde nous fait perdre le nord si on ne pense pas différemment pour s'en sortir. Einstein dira, on ne résout pas un problème avec le mode de pensée qui l'ont engendré. Donc en d'autres termes, les valeurs du monde ne sont appréhendables que par ceux qui les ont mis en place. Il te faut vivre une vie qui fait confiance en Christ parce qu'elle crée des situations nouvelles, des opportunités bien plus belles, un point de vue nouveau. Par exemple, les gens ont une drôle d'idée de la mort. À cause d'Halloween, on représente la mort comme un squelette avec une fourche dans une porte qui vient chercher les gens quand ils vont mourir. Mais nous, chrétiens, nous chrétiens, à la porte de notre mort, eh bien, ce sera le visage de Jésus qu'on verra. Ce ne sera pas ce squelette avec une fourche. C'est Jésus qu'on verra. Ce sera Jésus qui viendra me chercher en temps voulu. Puisque nous, chrétiens, Jésus nous a promis que celui qui croit au Fils de Dieu, il a la vie éternelle. Le croyant adresse sa prière à Dieu, il reçoit un accueil favorable. Il entre dans la présence de Dieu avec des cris de joie. Amen. Donc pour revenir aux croyants de l'église de Rome, en Romains chapitre 16, ils n'avaient pas peur des lois de la mort, ni peur de s'encombrer des valeurs du monde. Dans Romains 8, il est dit que, en effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Ces personnes n'avaient qu'une seule crainte, celle de manquer à la parole de Dieu. Ils avaient la crainte de l'Éternel, mais ils avaient la joie d'avoir été pardonnés par Dieu au regard de leur vie passée. Ils étaient aussi pécheurs que nous aujourd'hui, avant d'entendre le message de la grâce dans leur vie de pécheurs. Ils ont enfin une rédemption au regard de la vie passée que Dieu a donnée. Et leur vie regarde maintenant vers l'avenir, parce que la beauté est dans les yeux de celui qui regarde à Jésus. C'est Oscar Wilde qui l'a dit. Il ne disait pas que c'était Jésus, mais voilà. Pour répondre à tout l'amour de Dieu, pour répondre à tout l'amour de Dieu déversé en abondance pour eux, eh bien, avec courage et humilité, ces chrétiens ont remis tout entre les mains de Dieu pour un nouveau départ. Car la vie en Christ crée une situation nouvelle et donc une position différente. Vous imaginez ce courrier si les Romains ou les gens pernicieux avaient retrouvé cette lettre qui énumérait la liste de toute l'Église, c'était toute l'organisation de l'Église, ils pouvaient aller chercher les gens. Avant, ce n'était pas vraiment les autorités qui posaient problème, c'était des gens qui balançaient, tout simplement. Des gens qui ne les aimaient pas. Paul les a mis en danger, mais il a fait confiance à Dieu en les encourageant. Il préférait prendre le risque de les saluer, de les encourager. Ces chrétiens ont pris le chemin d'une longue course où à la fin, ils pourront dire, comme dans Éphésiens, « Je pourrais alors être fier le jour de Christ de n'avoir pas couru ni travaillé pour rien. Parce que maintenant, Dieu peut me combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous mes besoins, à tous nos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Et dans Jacques 4, 6, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Vous savez pourquoi ? Parce que l'orgueilleux, il aimera mieux se perdre que de demander son chemin. Le monde est fait ainsi. Es-tu encore cette personne orgueilleuse ou perdue ? Alors si tu es cette personne ce matin, alors on priera pour toi après. Je vais terminer. Je vais vous raconter l'histoire d'un petit garçon. À Noël, il passe devant les magnifiques boutiques, vous savez, qui sont décorées, lumineuses. Et ce gamin voit les gens qui passent devant avec les yeux qui brillent et qui rentrent à l'intérieur des magasins, qui ressortent avec... ils avaient les mains vides, ils ressortent maintenant avec des paquets remplis de cadeaux qui débordent. Il se dit, waouh, il doit y avoir des trucs super dans ces magasins. J'ai bien envie d'acheter ces choses-là. On dirait que ces choses sont précieuses. Elles suscitent la convoitise. On a bien envie que toutes ces choses soient pour soi. Et ce garçon, pareil, il a acheté des trucs, il est rentré chez lui, il se rend compte que quand il les possède, il n'est toujours pas satisfait. Et souvent, quand on n'est pas satisfait, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on range les choses. On les enferme en fait chez soi, sous vitrine, sous le lit ou ailleurs. On enferme toutes ces choses-là. Mais un jour, il part dehors, quand il va dans la nature, quand il va dans la forêt, ailleurs, et bien il se rend compte que c'est le contraire. Rien n'est enfermé. Le vent frais ou le vent chaud, ça dépend de la saison, il se rend compte que le vent lui fait du bien. Et pourtant, il ne peut pas l'attraper, il ne peut pas l'enfermer. Et quand il entend un oiseau qui chante, oh, Il a envie d'apprendre à chanter lui aussi, ce gamin. Et quand il va à la rivière en été, il a trop envie d'y aller. La rivière l'invite à nager. Dans son école, il y a des grands arbres. Et ces grands arbres dans la cour, quand il pleut, sont tous mouillés. Mais ça tombe bien, ces grands arbres. Ils le protègent de la pluie, parce qu'il avait oublié son parapluie. Il se rend compte aussi que la lune l'éclaire la nuit quand il a peur, quand il dort. Il se rend compte aussi que le soleil, quand il se couche, eh bien, il revient chaque matin, pour ne pas l'oublier. Et c'est très étonnant parce que le vent, l'oiseau, la rivière, les arbres, la lune, le soleil ne sont pas des choses rares, ne sont pas des choses chères. Ça ne lui appartient pas. Et pourtant, même quand on cherche bien, eh bien, il ne voit rien de plus précieux. Il y a une envie naturelle de louer Dieu ainsi en écoutant ça, pour ce que Dieu a fait dans la création. Si ce gamin a pu se rendre compte de tout ce que la création lui donne, cette impression qu'il y a des choses précieuses qui ne lui appartiennent pas, on se contente et on doit être content et ravi et dans la joie de savoir que c'est Dieu, au travers de la création, qui nous a donné cela. La création, la création ne fait pas ça pour nous, elle fait ça pour louer Dieu. Et quand la création loue Dieu, ben nous aussi on a envie de faire pareil. Et on est béni aussi par cette louange. On a une envie naturelle de louer Dieu pour ce qu'il a fait dans la création et qui déborde sur ma façon de voir ma vie. Jésus me fait voir les choses précieuses. Elles ne m'appartiennent pas, mais elles me font du bien. Et comme le fait naturellement toute la création, donc continuons à inviter Dieu à tout nous donner. Et nous, nous devons vraiment tout lui donner. Tout ce que tu fais, eh bien, fais-le pour l'honorer. Tout ce que tu sais faire de bien, eh bien, donne-lui. Mets-le au service des autres. Mets-le au service de Dieu. Parce que Dieu a tout donné aux hommes pleinement. Il a tout donné en abondance. Et Jésus, justement, il est mort à la croix pour prendre les péchés du monde, mais avant tout, ton péché à toi, tes péchés à toi. Aujourd'hui, tu peux profiter de cette abondance. Et c'est une grâce et elle est offerte. Qu'attends-tu pour recevoir une vie en abondance en Christ ? C'est-à-dire une vie qui fait partie d'un même corps, une vie qui distingue les choses polluantes que tu n'as pas besoin, et enfin une vie qui se focalise sur ce qui est important pour ta santé spirituelle et qui va déborder sur tes proches et tes collègues. J'ai envie de prier avec vous, prions ensemble. Dieu, tu ordonnes de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre mon espérance dans des richesses incertaines, mais en toi, le Dieu vivant, qui me donne tout avec abondance pour que j'en profite. Parce que j'ai tout pleinement en Christ, toi qui es le chef de toute domination et de toute autorité. Seigneur, je veux prendre exemple sur toi. Tu veux me pardonner si je me repens et si je reviens à toi. Je suis coupable de m'être éloigné de toi et je te demande pardon. Jésus ressuscité, accorde-moi ton pardon sur toute ma vie. Aide-moi à me garder de demeurer, de rester ou de mettre mes pieds dans le péché. Éloigne-moi de cela. Je veux combattre tout cela au nom du Seigneur Jésus. Je veux le combattre par la prière, mais aussi à l'aide de l'Église. Vraiment, Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour les choses précieuses que tu m'as données, qui ne m'appartiennent pas maintenant et que je ne peux plus garder pour moi-même. Merci pour ta vie en abondance et pour ton aide aujourd'hui et pour les jours à venir. Car je sais qu'avec toi, je ne vivrai pas de pain seulement, mais de ta parole qui sort de ta bouche. Amen, Jésus. Amen. Soyez bénis.